Chapitre 17. Alexandria, Virginie, jeudi 25 décembre 1980. Ils vinrent trouver Aaron Eshkol et sa famille pendant la nuit de Noël, à 2 heures du matin. Aaron avait eu un sommeil agité. Il s'était levé un peu après minuit et était descendu goûter les gâteaux offerts par leurs voisins, les Wentworth. Le réveillon avait été très agréable. C'était la troisième année consécutive qu'il passait le soir de Noël avec les Wentworth et avec Don et Tina Seagram. Déborah, l'épouse d'Aaron, était juive comme lui, mais ni l'un ni l'autre n'était pratiquant. Déborah était parfois gênée par le sionisme ouvertement affiché de son mari. « Elle se sent à son aise en Amérique », pensait-il parfois. « Elle voit toujours tous les tenants et aboutissants de n'importe quel problème, y compris ceux qui n'existent pas. » Aaron était souvent gêné quand elle défendait le point de vue de l'OLP lors des réceptions organisées à l'ambassade. « Non, pas de l'OLP », se reprit Aaron en achevant son troisième et dernier gâteau. « Des Palestiniens. » « Pour le plaisir de polémiquer, » disait-elle. Mais elle polémiquait à merveille. Bien mieux qu'Aaron, qui pensait parfois qu'il ne savait rien faire à part décrypter les messages codés. Oncle Saul adorait discuter avec Déborah. Oncle Saul. Cela faisait 4 jours qu'il se demandait s'il devait signaler la disparition de son oncle à Jack Cohen, son supérieur, le chef du groupe du Mossad en poste à l'ambassade de Washington. Jack était un petit homme tranquille, qui donnait une impression d'amabilité légèrement pataude. 4 ans plus tôt, il avait pris part au raid sur NTB, en qualité de capitaine d'un peloton de para, et le bruit courait que c'était grâce à lui que l'armée israélienne avait pu s'emparer de tout un site de missiles SAM égyptiens durant la guerre du Kippour. Jack saurait lui dire si la disparition de Saul était grave ou non. Mais Levy lui avait conseillé la prudence. Levy Cole, qui travaillait aux chiffres avec Aaron, avait photographié les participants de la réunion et l'avait aidé à les identifier. Levy bouillait d'impatience. Il était sûr que l'oncle d'Aaron avait soulevé un lièvre de taille, mais il ne voulait pas en référer à Jack Cohen ou à M. Bergman, l'attaché d'ambassade, avant d'avoir obtenu davantage d'informations. C'était Levy qui avait aidé Aaron à faire le tour des hôtels de la ville le dimanche précédent afin de tenter de localiser Saul. À 1h10, Aaron éteignit les lumières dans la cuisine, vérifia le système d'alarme dans l'entrée, puis alla s'étendre sur le lit et se mit à contempler le plafond. Becky et Rhea étaient très déçus. Aaron avait dit aux jumelles qu'oncle Saul viendrait les voir samedi soir. Saul ne descendait de New York que 3 ou 4 fois par an, mais les fillettes l'accueillaient chaque fois avec une joie sans mélange. Cela n'étonnait nullement Aaron. Il se rappelait avec quelle impatience lui-même attendait son oncle Saul quand il venait à Tel Aviv. Chaque famille devrait avoir un oncle qui ne se contente pas de gâter les enfants, mais qui fait attention à eux quand ils disent quelque chose d'important, leur offre des cadeaux idéaux, pas nécessairement somptueux, mais en harmonie avec leur personnalité, et leur raconte des blagues et des histoires de cette voix sèche et tranquille qu'ils préfèrent de loin à la gaieté forcée de la plupart des adultes. Ça ne ressemblait pas à Saul d'avoir laissé passer une telle occasion. Levy lui avait suggéré que Saul était peut-être impliqué dans l'incident survenu samedi au bureau du sénateur Kellogg. Les liens de ce dernier avec Neiman Trask étaient trop évidents pour écarter cette hypothèse, mais Aaron savait que son oncle ne participerait jamais à un attentat. Saul avait eu sa chance, à la fin des années 40, à l'époque où tout le monde, de Menahem Begin au père d'Aaron, prenait part aux activités de la Haganah, des activités que ces mêmes vétérans condamnaient aujourd'hui comme relevant du terrorisme. Aaron savait que Saul avait pris part à 3 guerres, mais toujours en tant que médecin, jamais en tant que combattant. Il se rappelait le temps où, à l'appartement de Tel Aviv ou dans la ferme de son père, certains soirs d'été, il s'endormait au son de la voix des deux hommes lancés dans une discussion sur l'éthique des bombardements. Saul soulignant d'un ton ferme que les A4 Skyhawks, partant pour des raids de représailles, tuaient autant de bébés que les fédaïnes armés de Kalachnikov. Au bout de 4 jours d'enquête, Levy et Aaron n'étaient pas plus avancés. Les contacts de Levy au ministère de la Justice et au FBI ne savaient rien sur l'attentat, à moins qu'il n'ait refusé de parler. Aaron avait appelé New York à plusieurs reprises, sans réussir à retrouver la piste de Saul. « Il est en parfaite santé », pensa Aaron. Puis, prenant mentalement l'accent de Saul, « Ne joue pas les James Bond, maudit !» Aaron était en train de s'assoupir, entamant un rêve dans lequel les jumelles jouaient au pied de l'arbre de Noël des Wentworth, lorsqu'il entendit un bruit dans le couloir. Aaron réagit au quart de tour. Il rejeta ses couvertures, récupéra ses lunettes posées sur la table de nuit et saisit le Beretta calibre 22 rangé dans le tiroir.
« Que ?»
demanda Déborah d'une voix ensommeillée.
« Silence !»
souffla-t-il. Il était théoriquement impossible de pénétrer dans la maison sans déclencher une alarme. Plusieurs années auparavant, l'ambassade avait utilisé la maison d'Alexandria comme refuge. Elle était située dans une impasse tranquille, loin de la route. La cour était éclairée par des projecteurs, la barrière et les murs truffés de détecteurs électroniques reliés à la console de la chambre et à celle de l'entrée. La maison proprement dite était protégée par des portes renforcées et des verrous capables de décourager le plus accompli des cambrioleurs. Portes et fenêtres étaient également pourvues de détecteurs reliés à la console principale. Déborah avait été irritée par les nombreuses fausses alertes survenues durant les semaines qui avaient suivi leur arrivée, et elle avait fini par déconnecter la plupart des systèmes d'alarme. Cette initiative avait été à l'origine d'une de leurs rares scènes de ménage. Aujourd'hui, Déborah acceptait le système d'alarme comme un prix à payer pour vivre dans une banlieue riche. Aaron détestait habiter aussi loin de son lieu de travail, aussi loin des autres employés de l'ambassade, mais il s'inclinait devant ses filles, qui adoraient la verdure, et devant Déborah, qui se plaisait dans le quartier. Il était impossible qu'un intrus ait franchi les 2 niveaux du système de sécurité sans déclencher une alarme. Nouveau bruit dans le couloir, en provenance de l'escalier de derrière et de la chambre des jumelles. Aaron crut percevoir un murmure étouffé. Il fit signe à Déborah de se lever. Elle s'exécuta et disparut dans l'ombre, saisissant le téléphone au passage. Aaron fit 3 pas en direction de la porte ouverte. Il respira à fond, ajusta ses lunettes sur son nez, leva le Beretta, l'arma, et s'engagea dans le couloir. Ils étaient 3, peut-être davantage, à 5 mètres de lui dans le couloir obscur. Ils portaient de larges blousons kaki, des gants et des passe-montagnes. 2 d'entre eux braquaient un revolver à canon long sur Rebecca et sur Rhea. Les jumelles ouvraient des yeux énormes, au-dessus des mains gantées plaquées sur leur bouche. Leurs jambes pâles ballottaient devant le tissu sombre des vestes. Sans même réfléchir, Aaron adopta la posture de tir qu'on lui avait enseignée lors de son entraînement, jambes écartées, les 2 mains sur la crosse. Il entendait encore la voix d'Ailaou et n'avait aucune peine à se rappeler les instructions énoncées avec sécheresse. « S'ils ne sont pas prêts, tirez. S'ils sont prêts, tirez. S'ils ont des otages, tirez. S'il y a plus d'une cible, tirez. 2 balles pour chaque cible. 2. Ne réfléchissez pas. Tirez. » Mais ce n'étaient pas des otages. C'étaient ses filles, Rebecca et Rhea. Aaron distinguait parfaitement la tête de Mickey sur leur pyjama. Il braqua son arme sur un passe-montagne. Au stand de tir, même avec une lumière si mauvaise, il aurait parié n'importe quoi qu'il était capable de loger 2 balles dans une cible ayant la taille de la tête de cet homme, de pivoter et d'abattre aussi son complice, tout cela en un temps record. À une distance de 5 mètres, Aaron était de force à vider le chargeur de son Beretta dans une cible pas plus grosse que son poing. Mais c'était ses filles.
Lâchez votre arme.
La voix neutre de l'homme était étouffée par son masque. Son pistolet, un Luger à canon long muni d'un silencieux, ne visait pas exactement la tête de Becky. Aaron était sûr de pouvoir abattre les deux hommes avant qu'ils aient eu le temps de tirer. Il sentit le contact du plancher sous ses pieds nus. 2 secondes s'étaient écoulées depuis qu'il avait pénétré dans le couloir.
« Ne leur donnez jamais votre arme !»
avait martelé Aïlaou durant cet été brûlant à Tel Aviv.
« Jamais ! Tirez toujours pour tuer ! Mieux vaut causer la mort de l'otage, votre propre mort ou celle de l'ennemi, que de lui donner votre arme.
Lâchez votre arme !»
Toujours en position de tir, Aaron posa le Beretta sur le sol et écarta les bras.
« je vous en prie, ne faites pas de mal à mes filles !»
Ils étaient 8 en tout. Ils attachèrent les poignets d'Aaron dans son dos avec une bande adhésive, extirpèrent Déborah de sa cachette derrière le lit et les firent descendre tous les 4 dans la salle de séjour. 2 des hommes masqués allèrent à la cuisine.
« Il n'y avait pas de tonalité, maudit !»
octa Déborah, avant que l'homme qui la traînait ne lui couvre la bouche d'un morceau de bande adhésive. Aaron hocha la tête. Il ne se sentait pas le courage de parler. Le chef du groupe le fit asseoir sur le tabouret du piano. Déborah et les enfants étaient assises par terre, adossées au mur blanc. Les fillettes n'étaient ni ligotées ni bâillonnées, et elles sanglotaient, blotties contre leur mère. 2 hommes en blouson kaki, passe-montagne et blue jean étaient accroupis à côté d'elles, les encadrant. Le chef hocha la tête, et ils ôtèrent tous leurs masques.
« Oh mon Dieu, ils vont nous tuer !» pensa Aaron. À cette seconde, il aurait tout donné pour pouvoir remonter le temps de 3 minutes. Il aurait tiré 2 coups de feu, puis il aurait pivoté, tiré 2 autres fois, pivoté.
Les 6 hommes présents dans la pièce étaient blancs, bronzés, très soignés de leur personne. Ils ne ressemblaient ni à des agents palestiniens, ni à des membres du groupe Bader-Meinhof. Ils ressemblaient aux gens qu'Aaron croisait tous les jours dans les rues de Washington. Le plus proche se pencha sur lui. Ses yeux étaient bleus, sa denture parfaite. Il avait un léger accent du Middle West. « Nous souhaitons vous parler, Aaron. » Aaron acquiesça. Ses poignets étaient si étroitement liés que le sang ne circulait plus dans ses mains. S'il réussissait à tomber de son siège, il pourrait décrocher un coup de pied au beau gosse penché sur lui. Les 5 autres étaient armés et trop loin de lui pour qu'il puisse seulement les atteindre. Aaron goûta la bile dans sa gorge et ordonna à son cœur de continuer à battre très fort.
« Où sont les photographies ?»
demanda l'homme penché sur lui.
« Quelles photographies ?»
Aaron n'arrivait pas à croire que sa voix puisse encore être si ferme, si neutre.
« Allons, maudit, ne jouez pas à ce petit jeu avec nous. »
L'homme adressa un hochement de tête au grand échalas posté près du mur. Sans changer d'expression, il décocha une forte gifle à la petite Becky. La fillette se mit à hurler. Déborah lutta pour se dégager de ses liens, cria sous son bâillon. Aaron se redressa.
« Espèce de salaud »
cria-t-il en hébreu. Beau gosse lui donna un coup de pied dans les jambes. Aaron atterrit sur son épaule droite, heurta violemment le plancher du nez et de la pommette. À présent, les 2 enfants hurlaient. Aaron entendit un bruit de ruban adhésif qu'on déchire, et leurs cris cessèrent brusquement. Grand échalas s'approcha de lui et le releva sans ménagement, le reposant sur le tabouret du piano.
« Est-ce qu'elles sont ici ?» demanda doucement beau gosse.
« Non !»
répondit Aaron. Du sang coulait de son nez sur sa lèvre supérieure. Il inclina la tête en arrière et sentit la douleur qui naissait dans sa joue. Son bras droit était engourdi.
« Elles sont dans le coffre-fort de l'ambassade !»
lâcha-t-il en léchant le filet de sang. L'autre hocha la tête et eut un léger sourire.
« Qui les a vues à part votre oncle Saul ?»«
Lévi Cole. »
« Le chef des communications, » encouragea l'homme à voix basse.
« Par intérim, »
corrigea Aaron.
« Peut-être avait-il une chance de s'en tirer. » Son cœur battit de nouveau plus fort. « Uri David est en congé. »
« Qui d'autre les a vus ?»«
Personne !»
articula Aaron.
L'autre secoua la tête, apparemment déçu. Il fit un signe à un troisième homme.
Déborah hurla lorsque la lourde botte lui cogna le flanc.
« Personne !» cria Aaron. « Je le jure !» Lévi ne voulait pas en parler à Jack Cohen tant que nous n'aurions pas davantage d'informations. Je le jure !« Je peux vous donner ces photographies. Lévi a caché les négatifs dans le coffre-fort. Vous aurez tous les... »
« Chut !» fit beau gosse.
Il se tourna vers ses deux complices qui revenaient de la cuisine.
Ils hochèrent la tête.
Celui qui se trouvait près d'Aaron dit « En haut !»
Quatre hommes sortirent. Aaron sentit soudain une odeur de gaz.
« Ils ont ouvert la gazinière, »
pensa-t-il.
« Ils ont ouvert les valves. Oh mon Dieu, pourquoi ?»
Les trois hommes restants ligotèrent les enfants avec de la bande adhésive. Aaron chercha désespérément quelque chose à marchander.
« Je vais vous y conduire tout de suite, » dit-il. « L'ambassade est presque déserte. Quelqu'un n'a qu'à m'accompagner. Je vous donnerai les photographies et tous les documents que vous voudrez. Dites-moi ce que vous voulez et j'irai avec vous. Et je jure que... »
« Chut !» refit l'homme.
« Est-ce que Annie Adam les a vus ?»«
Non !»
hoqueta Aaron.
Ils allongeaient Deb et les jumelles sur le sol, avec beaucoup de soin, veillant à ce que leur tête ne heurte pas le plancher.
Déborah était blême. Ses yeux roulaient dans leurs orbites. Aaron se demanda si elle s'était évanouie.
« Barbara Green ?»«
Non. »«
Moshe Herzog ?»«
Non. »«
Paul Ben Brinzi ?»«
Non. »«
Chaim Tsolkov ?»«
Non. »«
Zvi Hoffi ?»«
Non. »
La litanie se poursuivit, englobant tout le personnel de l'ambassade jusqu'au plus proche collaborateur de l'ambassadeur. Aaron avait tout de suite compris que c'était un jeu, une façon de tuer le temps en attendant que la fouille de l'étage soit achevée. Aaron était prêt à jouer à n'importe quel jeu, à révéler n'importe quel secret, pour épargner quelques minutes de souffrance à Déborah et aux jumelles. Une des fillettes gémit et essaya de rouler sur elle-même. Grand Échalas lui tapota l'épaule. Les quatre hommes revinrent. Le plus grand secoua la tête.
Beau gosse sourit et dit
« D'accord, au boulot !» Un de ceux qui étaient montés à l'étage en avait ramené un drap blanc provenant du lit d'une des jumelles. Il l'accrocha au mur avec de la bande adhésive. Ils installèrent Déborah et les enfants devant le drap.
« Réveillez-la !»
Grand Échalas sortit un flacon de sel de sa poche et l'ouvrit sous le nez de Déborah. Elle reprit conscience dans un sursaut. Deux hommes saisirent Aaron par les cheveux, le traînèrent vers le mur et le forcèrent à s'agenouiller. Grand Échalas recula de quelques pas, sortit un petit appareil Polaroid de sa poche et prit trois photos. Il attendit qu'elles sortent et les montra à beau gosse. Un de ses complices prit un petit magnétophone Sony et en colla le micro aux lèvres d'Aaron.
Lisez ceci, s'il vous plaît,
dit beau gosse en dépliant une feuille de papier sur laquelle on avait tapé un texte. Il la plaça à 20 centimètres des yeux d'Aaron.
Non.
Aaron se prépara à recevoir un coup de poing. S'il parvenait à bouleverser leur plan, à gagner du temps.
Beau gosse hocha la tête d'un air pensif et se retourna. Tuez l'une des filles, n'importe laquelle.
Non, attendez! « Arrêtez, je vous en prie, j'obéirai !»
Aaron hurlait littéralement. Grand Échalas avait collé son silencieux contre la tempe de Rebecca et avait relevé le percuteur de son arme. Il ne bougea pas, ne parut pas entendre les cris d'Aaron. « Un instant, s'il vous plaît, Donald, » dit Bogos. Il plaça de nouveau la feuille de papier devant Aaron et actionna le magnétophone.
« Oncle Saul, Deb, les filles et moi sommes sains et saufs, mais je t'en prie, fais ce qu'ils te disent !»
récita Aaron. Il lut le message jusqu'au bout. Cela lui prit moins d'une minute.
« C'est très bien, Aaron, » dit Bogos.
Deux hommes saisirent Aaron par les cheveux et lui tirèrent la tête en arrière. Aaron octa pour respirer tant il avait la gorge serrée et s'efforça d'observer la scène du coin de l'œil. Le drap fut retiré et emporté hors de vue. Un homme sortit une toile de plastique noir de sa poche et la déroula sur le sol près de Déborah. Elle mesurait à peine 1 mètre sur 1,20 m et dégageait une odeur de rideau de douche bon marché.
« Amenez-le par ici, » dit Bogos.
Et Aaron fut traîné jusqu'au tabouret. Il entra en action dès qu'on lâcha ses cheveux. Ses jambes jaillirent comme un ressort. Son crâne emboutit le menton du playboy. Il se retourne, shoote dans le ventre d'un autre, se dégage des 6 mains qui cherchent à le saisir, vise un bas-ventre, le rate, puis il tombe. Il y a un homme sous lui, 2 autres dessus. On le cogne sur la joue droite, encore et encore, de plus en plus fort, mais il s'en fiche. Reprenons depuis le début, articula posément Bogos. Il palpait le bleu sur son menton et bâillait pour faire jouer ses maxillaires. Le plus gros de l'hématome se situerait probablement sous son menton.
Qui êtes-vous ?
Octa Aaron tandis qu'on le relevait pour le faire asseoir sur le tabouret. Quelqu'un lui attacha les chevilles. Personne ne lui répondit. Grand Échalas tira Déborah jusqu'à ce qu'elle soit allongée sur la toile noire. 2 hommes brandirent des tiges de fer rigides, longues de 15 cm, à la pointe aiguisée, aux manches en bois. La pièce empestait le gaz. Aaron avait envie de vomir.
« Qu'allez-vous faire ?»
Aaron avait la gorge si sèche que sa question fut à peine audible. Alors même que Bogos lui répondait, il sentit son esprit patiner comme une automobile sur le verglas, sentit son point de vue se déplacer pour lui faire observer la scène à distance, sachant ce qui allait se produire, sans pour autant l'accepter, éprouvant, absolument incapable de modifier une seule seconde de son passé ou de son futur, cette sensation incroyable, impitoyable, d'impuissance, qu'une 100aine de générations de Juifs avaient éprouvée avant lui, devant les fours crématoires, à l'entrée des douches, au spectacle du feu dévorant les cités millénaires, au milieu des hurlements féroces des goïms tout proches. Oncle Saul a connu cela, pensa Aaron en fermant les yeux et en ordonnant à son esprit de ne pas comprendre les mots. « Il va y avoir une explosion de gaz, » dit Bogos. Il avait une voix patiente, une voix de professeur. Un incendie. Les corps seront retrouvés dans leur lit, très grièvement brûlés. Un excellent coroner ou un excellent médecin légiste serait capable de prouver que les victimes étaient mortes avant que les flammes ne consument leur corps. Mais cela ne se produira pas. Cette tige pénètre juste au coin de l'œil et atteint directement le cerveau. Elle ne laisse qu'un minuscule orifice, même sur un corps qui n'a pas été calciné. Il s'adressa aux autres. « Je pense que l'on retrouvera M. Eshcol dans le couloir de l'étage, un enfant dans chaque bras. Il aura presque réussi à échapper aux flammes. Occupez-vous d'abord de la femme, ensuite des jumelles. » Aaron se débattit, hurla, donna des coups de pied dans le vide. On le maîtrisa sans peine.
« Qui êtes-vous »
cria-t-il. À sa grande surprise, Bogos lui répondit.
« Qui sommes-nous ? Mais personne. Personne. »
Il s'écarta afin qu'Aaron puisse mieux voir ce que faisaient les autres. Aaron ne leur résista pas lorsqu'ils finirent par tourner leurs tiges vers lui.